Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à l'Iran. Le printemps arabe a quelque peu détourné l'attention du monde qui s'était beaucoup focalisé sur l'Iran l'an dernier. En juillet 2010, un renforcement des sanctions avait été décidé par les États-Unis et l'Union européenne, rapidement suivi par la plupart des pays industrialisés, sur fond de dossiers nucléaires. Regard sur la situation économique et politique en Iran, où au sommet de la pyramide du pouvoir, la guerre fait rage depuis plusieurs semaines entre les partisans du guide suprême Ali Khamenei et les alliés du président Ahmadinejad. La chute d'Ahmadinejad est-elle possible avant les présidentielles de 2013? Sur un plan plus large, comment sont perçus à Téhéran les mouvements de révolte dans le monde arabe et particulièrement en Syrie? Ceux de la péninsule arabique rapidement matés ont replacé l'Arabie saoudite dans un face-à-face avec l'Iran, faisant monter une certaine tension, d'où l'importance que prend ce rapprochement entre l'Iran et l'Irak. Les deux pays viennent de s'engager à tourner la page de la guerre qui les a opposés dans les années 80 et à normaliser leurs relations. Nos invités, Azadeh Khian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS, et auteur de l'Iran, un mouvement sans révolution, la vague verte face au pouvoir mercanto-militariste, à paraître en octobre prochain aux éditions Michelon. Bonjour Azadeh Khian.
Bonjour.
Mohamed Reza Jalili, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement, co-auteur de Histoire contemporaine de l'Iran aux éditions La Découverte. Bonjour monsieur Mohamed Reza Jalili.
Bonjour.
Et David Rigoulet-Rose, enseignant et chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, auteur de L'Iran pluriel, regard géopolitique qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Bonjour David Rigoulet-Rose. Que se passe-t-il donc en Iran? On a vu cette semaine l'ancien président iranien Rafsanjani critiquer la politique étrangère actuelle de l'Iran et plaider pour des négociations avec les États-Unis, ça d'une part. Et puis depuis la mi-avril, la guerre fait rage entre les partisans du guide suprême Ali Khamenei et le président Ahmadinejad. Quelle lecture faites-vous chacun de ce qui se passe aujourd'hui en Iran au sommet du pouvoir Azadeh Khian?
Les conflits se sont envenimés effectivement, comme à mon sens l'une des conséquences importantes justement du mouvement vert et aussi de la répression féroce de ce mouvement. Il ne faut pas oublier que 4000 personnes ont été arrêtées, plusieurs centaines restent emprisonnées. Parmi les 4000 personnes arrêtées, il y avait beaucoup de réformateurs qui auparavant faisaient partie des cercles du pouvoir, y compris d'ailleurs au sein des services de renseignement, et cela même que Ahmadinejad n'a pas tardé à limoger après justement l'épisode de juin 2009 et qui a créé également un tollé parmi les conservateurs proches du guide, puisque il a, on s'en souvient, a refusé aussi de réintégrer le ministre de renseignement qui est un ministre régalien et qui est choisi normalement par le guide et qui a été contraint à la démission par Ahmadinejad, monsieur Mousleï, et donc qu'Ahmadinejad a refusé de réintégrer pendant une dizaine de jours. Et c'est cet épisode a montré également à quel point il y a aussi des conflits entre Ahmadinejad qui refuse d'obéir maintenant au guide et le guide qui bien évidemment est dans une impasse. Je pense qu'il est dans une situation très difficile. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu Ahmadinejad coréen à la fois avant 2009 et après l'élection frauduleuse et très contestée. C'est le guide qui a fait une intervention avant même l'intervention du conseil de surveillance pour dire qu'Ahmadinejad a été élu.
Donc il a protégé Ahmadinejad.
Il l'a absolument protégé. Aujourd'hui, le sort du guide, à mon sens, est scellé au sort de Ahmadinejad. Donc il n'est pas très facile pour le guide de s'en défaire, si vous voulez, même si Ahmadinejad, on le sait, devient de plus en plus encombrant. Il y a à peine quelques jours, il a fait une intervention. Il a appelé les pastarans, les gardiens de la révolution, la l'ossature principale, le soutien principal du guide, les frères contrebandiers, c'est-à-dire qu'ils commencent à dénoncer les gardiens de la révolution qui l'ont aussi soutenu à leur tour et ont joué un rôle prépondérant dans son élection en 2009. Maintenant, on constate qu'il y a vraiment des fractions importantes au sein du régime, au sein des ultra-conservateurs et des conservateurs. Et le guide, au milieu de tout ça, a besoin bien sûr du soutien inconditionnel des gardiens de la révolution. Il a aussi besoin de soutien de l'institution cléricale. N'oublions pas que c'est un guide, c'est quand même un religieux. Sans l'institution cléricale, le guide ne pourra pas exister. Et il a aussi besoin quand même de Ahmadinejad. Donc voilà un peu la situation qui, encore une fois, à mon sens, est très liée à ce qui s'est passé après la réélection frauduleuse de Ahmadinejad et la répression féroce du mouvement vert, justement.
Mohamed Reza Djalili, vous partagez cette analyse d'Azadeh Kian, et après ça, je me tournerai vers vous, David Rigoulet de Rose.
Oui, tout à fait. J'ajouterais peut-être une chose, c'est qu'en fait, si on regarde l'histoire de la République islamique depuis 32 ans, la crise est inscrite dans l'ADN du régime, et qu'on est passé d'une crise à l'autre au cours de ces trois décennies d'existence de la République islamique, de la crise des otages à la crise des versets sataniques, et ensuite la crise du nucléaire, et ensuite la crise de 2009, etc. Donc ça, c'est une façon même de régenter le système à travers les crises. De plus, il y a aujourd'hui vraiment une crise structurelle aussi, au-delà des problèmes conjoncturels que Mme Kian a tout à fait bien décrit, une crise structurelle dans la mesure où l'institution du guide, qui est une sorte de sultan bénéficiant d'un pouvoir quasi divin, et le président de la République qui parfois oublie qu'il n'est pas vraiment le numéro un du régime, et ces deux personnalités finissent souvent par se chamailler au cours de la présidence de l'un face au guide. Ce fut le cas de par le passé, ce fut le cas à l'époque Khatami, et aujourd'hui, c'est de manière encore plus grave que du passé. Cet état bicéphale ne peut que aboutir à des situations impossibles telles qu'elles existent aujourd'hui.
Alors, situation impossible, qu'est-ce que ça veut dire, David Rigoulet-Rose ? Est-ce que la chute d'Ahmadinejad, finalement, est possible, peut-être avant même les présidentielles de 2013 ?
Un accident, en tout cas, est envisageable, puisqu'il y a eu deux attentats récents, en 2010 et plus récemment, en mai dernier, à l'occasion d'une visite qu'il avait faite dans le sud, dans le Khuzistan. On ne peut pas exclure du tout qu'il lui arrive quelque chose de problématique. Ce ne serait pas la première fois dans les arcanes du régime. Ce qui est significatif dans cette affaire, quand même, c'est qu'il faut signaler qu'effectivement, après la marginalisation du mouvement vert, c'est un fait, la tension est à son comble au plus haut niveau du pouvoir. Il me semble d'ailleurs que c'est révélateur d'une crise très profonde de la République islamique. Il faut quand même rappeler que le principe de ce régime repose sur le velayat et faqih, c'est-à-dire la primauté du religieux sur le politique. C'est ce qui a été mis en place en 1979. Or là, justement, dans les tensions entre le président, l'exécutif, qui dans l'architecture du pouvoir est relativement faible à la base, justement parce qu'il est censé se soumettre à l'autorité du guide, on voit qu'il y a un affaiblissement incontestable de ce principe du velayat, et que c'est intéressant parce que ça vient non pas du mouvement des réformateurs en tant que tel, mais précisément d'une mouvance qualifiée d'ailleurs par le guide lui-même de déviance. Et j'évoquerai une phrase intéressante de la part de son ancien mentor, qui est Mohamed Mesbah Yazdi, qui rappelait au président qu'il tenait sa légitimité de l'approbation du guide et pas du vote populaire. Donc on est là dans une contraction terrible du système, et c'est vrai que le guide est dans une position, vous avez effectivement souligné ça tout à l'heure, très inconfortable. Il est pieds et mains liés maintenant avec les passes d'Aran, qui ont pris un poids économique considérable, et d'ailleurs je rappellerai quand même que l'ayatollah Khomeini, quand il était au pouvoir, mettait en garde contre l'amplification d'un complexe militaro-industriel, d'une structure passes d'Aran dans l'économie, etc. Donc c'est ce qui est arrivé. Et dans les faits, il y a un affaiblissement effectivement de la primauté du religieux, avec des conséquences pour l'instant insoupçonnées, mais qui peuvent être très très importantes à moyen terme.
Alors, affaiblissement de la primauté du religieux, si on va plus loin, est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que finalement, en Iran, la théocratie est menacée ? Est-ce que le gouvernement iranien pourrait gouverner sans les religieux Azadeh Kian ?
C'est précisément ce qui s'est passé. Je pense que dès 1997, avec l'élection de Khatami, on a quand même vu que la majorité écrasante des électeurs avait opté pour une solution qui va à l'encontre de la théocratie religieuse. Oui. Et donc pour, dans un premier temps, renforcer les institutions électives représentatives, telles la présidence de la République, le Parlement, etc. Et finalement, c'est la société iranienne, dans sa grande majorité, qui s'est largement sécularisée utilisée au détriment, bien évidemment, du statut du guide de la Révolution, mais également de l'institution cléricale qui résiste ou qui souhaite résister, bien évidemment, face à cette vague de sécularisation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un processus qui a commencé depuis au moins les 20 dernières années et qui arrive à son terme, à mon sens, justement en 2009 et par la suite, bien évidemment, à travers les conflits au sein desquels Ahmadinejad a joué un rôle prépondérant, comme ça a été dit, mais ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Si vous regardez les directs faits d'Ahmadinejad dès sa première élection en 2005, il a toujours essayé d'obtenir son autonomie vis-à-vis à la fois de l'institution cléricale et du guide aussi. Et il a quand même résisté à maintes reprises dès 2006 d'ailleurs. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il est de plus en plus effectivement persuadé qu'il est élu du peuple, alors que bon, on sait que ça n'est pas le cas et que sans le soutien inconditionnel du guide et des pastaran, il n'aurait pas été élu. Mais en tout cas, son impression, c'est ça. Et il y a une stratégie électorale derrière tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on est proche des législatives de 2012 et de la présidentielle de 2013. Et Ahmadinejad et ses proches essayent par tous les moyens d'obtenir l'aval des électeurs, des réformistes, hein, qui, eux, n'auront très visiblement plus le droit à participer aux élections législatives de 2012 et à la présidentielle de 2013. Donc, les slogans proférés par Ahmadinejad, Machahi, qui est très proche de Ahmadinejad et qui serait la tête pensante, et d'autres proches de Ahmadinejad, vont absolument dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils sont en train de surfer sur cette vague de protestation qui existe dans la société iranienne, malgré la marginalisation du mouvement vert, hein, les revendications pour la démocratie, les revendications aussi pour le renforcement des institutions électives. Et donc, c'est là-dessus que mise Ahmadinejad pour les législatives.
Vous voulez dire, si je vous ai bien comprise, Azadekian, que finalement, aujourd'hui, Ahmadinejad se veut presque le porte-parole des réformistes ?
Bien sûr, pas des réformistes, hein, mais de leur électorat. Ils ont fait même des démarches de s'approcher d'un certain nombre de réformistes afin éventuellement de créer une alliance pour les législatives de 2012. Mais bien sûr, les réformistes ne vont pas accepter. Il ne faut pas oublier que deux de leurs leaders, Moussavi et Karoubi, sont en résidence surveillée. Il ne faut pas oublier que les réformistes qui sont emprisonnés non plus n'accepteront pas de telle alliance, parce que Ahmadinejad et sa bande ont joué un rôle prépondérant dans la répression et dans les emprisonnements et les tortures et les viols. Mais en tout cas, c'est la stratégie de Ahmadinejad d'obtenir le vote de ceux et celles qui auparavant portaient leur voix vers les réformistes.
Donc une stratégie finalement très opportuniste, et on peut rappeler aux auditeurs que Ahmadinejad ne peut pas briguer un troisième mandat, donc sa présidence arrivera à terme en 2013. Vous partagez, Mohamed Reza Djalili, ce qui vient d'être dit ?
Oui, bien sûr. Ce que M. Ahmadinejad fait, c'est essayer d'avoir un peu l'opinion publique iranienne comme soutien, ce qui est normal en période électorale. Non simplement il fait des clins d'œil aux réformistes, mais en même temps il agite aussi des symboles nationalistes, des symboles se référant à l'iranité plus qu'à l'islamité, etc., pour attirer cette opinion publique envers lui. D'ailleurs, cela a entraîné une réaction très forte du pouvoir clérical contre ce discours nationaliste, à leur goût trop iranien et pas assez islamiste. Donc, tout cela s'inscrit dans une stratégie d'avenir. Bien sûr, M. Ahmadinejad ne peut fabriquer un troisième mandat, mais il espère, en tout cas, avoir quelqu'un qui lui soit proche à la présidence et attendre 4 ans pour se représenter. On est là aussi dans un modèle qui s'inspire un peu du modèle Poutine-Medvedev. Et donc, M. Ahmadinejad croit vraiment qu'il pourra avoir une carrière politique encore importante après sa fin de mandat. Donc il y a tout un programme dans ce sens-là. Ceci dit, le clergé et surtout le guide font tout ce qu'il est dans leurs moyens pour empêcher qu'il y ait une carrière politique pour M. Ahmadinejad dans les années à venir.
Un commentaire, David Rigoud-Larose.
Oui, justement, c'est cette stratégie du président Ahmadinejad, je partage tout à fait ça, elle est opportuniste, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, après avoir réprimé fortement le mouvement des réformateurs, c'est comme s'il essayait de faire une OPA. dans une logique de suffrage, dans une alliance anti-vélayatiste, en fait, par rapport au guide. Et ça, c'est intéressant et paradoxal dans la mesure où le même Ahmadinejad est, à titre personnel, lié à un mouvement qui serait le mouvement des Hojjatiers, c'est-à-dire un mouvement qui renvoie à une forme de millénarisme, etc., qui a peu à voir, évidemment, avec la logique démocratique des réformateurs. Mais, en l'occurrence, dans le cas de figure actuel, effectivement, il peut s'appuyer sur cette stratégie pour déstabiliser les fondements religieux du pouvoir de la République islamique. Et c'est un peu ce qu'il fait, non pas pour lui en tant que tel, mais plutôt pour le beau-père. Ils ont son chef de cabinet, qui est justement... Machaï, et qui lui pourra se présenter en 2013, alors que le Ahmadinejad ne pourra plus. Et c'est précisément Machaï qui est visé par la mouvance du guide, en priorité, parce qu'ils ont très peur de cette logique qui est en train d'être mise en place.
Donc beaucoup d'intrigues politico-religieuses, vous vouliez rajouter quelque chose à Zadekian ?
Oui, juste cette idéologie politique qui est en train de se faire construire par Machaï et Ahmadinejad consiste à combiner l'Iran anti-islamique, hein, la grandeur de l'Iran avant l'islam, plus le chiisme douze imamites qui est propre à l'Iran mais aussi à l'Irak, et notamment le culte de douzième imam, d'imam caché. Et ce qui très intéressant là-dessus, c'est que Ahmadinejad se met exactement au même niveau que le guide Khamenei, qui est connu pour ses proches d'être représentant, ou substitut plutôt, de l'imam caché. Or, dans une cassette qui a été récemment diffusée largement en Iran et qui aurait été préparée par Machaï, justement, il est dit que Ahmadinejad et Khamenei, les deux ensemble, main dans la main, sont en train de préparer les conditions de retour de l'imam caché. Et c'est ça qui a heurté bien évidemment les sentiments de l'institution cléricale d'une part, mais de Khamenei de l'autre. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Ahmadinejad est en train de mettre en question aussi, bien sûr, l'autorité religieuse du guide en lui disant, bon, on est tous les deux ensemble, on est en train de préparer le retour de douzième imam ensemble. C'est-à-dire que son recours à douze imamisme ou à l'imam caché, tout ça, pour moi, ça fait partie de sa stratégie électorale, mais en même temps, disons, opportuniste. Je ne pense pas qu'il croit réellement à l'existence de tout ça.
Très forte capacité à la manipulation également. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont la société iranienne vit tout cela ? Il y a eu, il y a quelque temps, donc, ce mouvement vert. Où est-ce qu'il en est, ce mouvement ? Est-ce qu'il est mort ? Où est-ce qu'elle en est, la révolution iranienne, Zadekian ?
À ma connaissance, ce mouvement n'est pas mort, mais il ne s'agissait pas d'une révolution. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le titre de mon bouquin, c'est « Un mouvement sans révolution ». Ce mouvement est tellement profond, tellement étendu, au sein, en tout cas, des classes moyennes très nombreuses iraniennes, mais aussi au sein de l'ensemble des opposants à ce régime et en tout cas à ce gouvernement, qu'il va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas un mouvement qui a été créé comme ça en 2009, hein. C'est un mouvement qui a existé au sein de la société et avec des revendications propres, revendications pour la liberté individuelle et collective, pour la démocratisation et également les femmes qui ont joué un rôle prépondérant pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Il y a des minorités religieuses, il y a des minorités ethniques qui revendiquent aussi leurs droits égaux. Donc non, c'est pas un mouvement qui a disparu. C'est un mouvement qui, pour le moment, du fait de la répression féroce, du fait d'une violence inouïe qui a été imposée par les forces de coercition, par le gouvernement aux manifestants, effectivement, est pour le moment, on va dire, dans sa phase, disons, dormante. Oui. Mais cela ne veut pas dire que le mouvement aurait disparu. Les Iraniens sont, à mon sens, très matures. Pour le moment, ils laissent faire Ahmadinejad et Khamenei. C'est-à-dire qu'ils sont en train de profiter, justement, des conflits entre les deux.
Pour s'organiser ?
Absolument. Et de temps en temps, ils tentent un petit peu d'attiser ces conflits. Mais pour le moment, la population protestataire attendent et je pense que c'est la meilleure stratégie à prendre.
Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à l'Iran. Nous retrouvons nos invités Azadeh Kian, Mohamed Reza Djalili et David Rigoulet-Rose dans quelques instants. À tout de suite.